entrevues, spectacles et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h au 88,3 FM ou sur profilprog.com. Profil, c'est 30 ans de découverte musicale.
Bonjour, ici Juliane Perrault. Voici votre bulletin du vendredi 6 février 2026. La CSQ exprime son inquiétude quant à la protection du débat démocratique et du droit de manifester dans le cadre des consultations particulières et auditions publiques sur le projet de loi numéro 13, loi visant à favoriser la sécurité et le sentiment de sécurité de la population et modifiant diverses dispositions. Pour son président, Éric Gingras, ce projet de loi s'inscrit dans une séquence de projets de loi présentés par ce gouvernement qui effrite l'état de droit au Québec. Ce qui est en jeu, selon lui, c'est l'exercice de droits fondamentaux, soit la liberté d'expression, de manifestation et d'association. Le programme de vaccination contre le zona est désormais offert gratuitement aux personnes de 71 ans et plus. Cette maladie qui apparaît chez les personnes ayant déjà eu la varicelle se manifeste par des lésions cutanées douloureuses, souvent sous forme de cloques localisées sur une partie du corps. La névralgie est la complication la plus fréquente. Il s'agit d'une douleur qui peut être ressentie plusieurs mois, voire des années sur le trajet du nerf atteint. Le risque de névralgie augmente avec l'âge, ainsi que chez une personne dont le système immunitaire est affaibli. Les rendez-vous pour la vaccination peuvent se prendre au clicsanté.ca ou en appelant au 1-877-644-4545 du lundi au vendredi de 8h à 18h. Le Conseil de quartier Saint-Sauveur invite les citoyennes et citoyens à contribuer à l'élaboration d'un plan d'action pour les 5 prochaines années. Virginie Bernier et Elisabeth Bouchard, administratrices du Conseil, menaient depuis 1 an des démarches pour doter le Conseil de quartier d'un plan d'action quinquennal, ainsi de pouvoir bénéficier de subventions de la Ville de Québec pouvant atteindre 10 000 $ nous apprend Thomas Verrette du Média Mont-Saint-Sauveur. Un atelier de consultation est prévu lors de la prochaine Assemblée du Conseil le 18 février au Centre communautaire Édouard-Lavergne. 5 kiosques thématiques permettront d'échanger et de partager des idées de projets pour améliorer la qualité de vie dans Saint-Sauveur. Organisé par Limoilou en vrac, l'événement Le Loup, le Lièvre et la Tortue a lieu demain et dimanche. Cet événement festif veut favoriser la mobilité active et la découverte du quartier. Demain, les activités se déroulent à la place Limouloise sur la 6e rue, tandis que dimanche, elles auront lieu au parc Pointe-aux-Lièvres. L'événement se positionne comme un complément familial aux célébrations du Carnaval de Québec qui débute aujourd'hui. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
toute simplicité. La simplicité et la nudité. De la nudité même de la vie, de l'homme dans les âges primitifs. Emportait du moins cet avantage qu'elle lui permettait de demeurer un simple résident de passage au sein de la nature. Sitôt rassasié de nourriture et de sommeil, cet homme était en mesure d'envisager la suite de son périple. Il campait en ce monde, pourrait-on dire, et quand il n'était pas occupé à suivre le cours des vallées, c'est qu'il l'était à traverser des plaines ou gravir des sommets. Puis patatras, les hommes sont devenus les outils de leurs outils. Celui qui cueillait en toute indépendance des fruits chaque fois qu'il avait faim est devenu fermier. Celui qui trouvait abri sous les branchages d'un arbre est devenu propriétaire. Nous ne campons plus la nuit venue. Nous nous sommes fixés sur terre et en avons oublié le ciel. Nous n'avons adopté le christianisme qu'en tant que vulgaire méthode d'agriculture améliorée. Nous avons construit une demeure de famille pour ce monde, pour le suivant, un caveau de famille. Les plus belles œuvres d'art sont l'expression du combat que l'homme livre pour se libérer de cette condition, mais notre art n'a pas d'autre effet que de rendre ces villes circonstances confortables et oubliables, la possibilité d'un état plus élevé. Il n'y a en réalité aucun endroit dans cette ville où exposer une œuvre des beaux-arts. Si nous avions hérité d'une telle chose, car nos vies, nos maisons et nos rues n'offrent aucun piédestal adéquat.
Avec mon jardin de haricots, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire du troc et me nourrir. J'ai de quoi pour passer l'hiver. J'ai du riz, de la mélasse, farine de seigle et de maïs, 22 sous pour le porc, 88 pour le froment. J'ai du sucre, du sel, des pommes séchées, un melon d'eau et des patates. En tout, j'en ai pour 8 dollars et 60 sous. Oh, 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 simplifier, 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 oh, simplifier, oh oui. Il m'arrive souvent d'aller pêcher aux rivières qui veulent bien me donner. Même la marmotte peut s'apprêter pour un souper. Et pour les ergoteurs invétérés, j'avoue qu'un bon dîner chez les amis est quelque chose qu'on ne peut pas refuser. Oh, 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 simplifier, simplifier, simplifier. Oui, simplifier. J'ai regardé dans ce pays ce que j'ai trouvé, m'a pas surpris. Résignation et calme désespoir. Trop de malheurs, trop de couteaux, trop d'objets et de fardeaux, trop de fiascos, de beaux habits, trop de travaux et de soucis, trop de détails, de mesquinerie, futilité et vanité, trop de magouilles, de façades, trop d'argent et trop d'enclos.
Alors, bienvenue à Toute Simplicité Désolé pour la petite panne technique au départ. J'étais un peu déstabilisé. On a un peu de nouveau aujourd'hui. Puis avec le nouveau, des fois, ça nous déstabilise. On sort de notre routine habituelle. C'est qu'aujourd'hui, on va commencer une petite capsule. On va avoir une petite capsule qu'on va faire probablement chaque semaine. C'est une collaboration avec l'organisme Croissance Travail, qui, eux, font... c'est un organisme communautaire qui a pour mission d'offrir des services d'intégration sociale et professionnelle visant le rétablissement de la personne ayant des problèmes de santé mentale par le biais d'activités de travail et de formation. Alors, à chaque semaine, on va avoir une petite capsule de 5 minutes d'une personne de Croissance Travail qui va... nous lire soit un poème ou un texte qu'elle a préparé. Alors voilà, on va commencer aujourd'hui. Je vais faire ma petite ma revue de presse habituelle. Puis on va commencer aujourd'hui avec M. Luc Vigneault. Alors, j'ai ça. Alors, dans mes annonces, pour ceux qui s'intéressent, je ne sais pas s'il reste de la place, mais on a Frédéric Lenoir qui va donner une conférence cet après-midi au Palais Montcalm. Et je pense aussi, c'est ce soir aussi, ou demain, au Palais Montcalm. Alors, je ne sais pas s'il reste de la place. Pour ceux qui s'intéressent, c'est sur les 7 piliers de la sagesse. Frédéric Lenoir, c'est un philosophe, un vulgarisateur de philosophie qui est assez bon conférencier. En tout cas, s'il reste la place, je vous le recommande. Aujourd'hui aussi, on va avoir un invité, Jean Désy. On va parler de l'hiver. J'ai commencé déjà à en parler, là, l'hiver, la nordicité. C'est notre réalité. Puis Jean, c'est une personne qui va dans le Nord souvent. Alors, il y a des choses à nous dire sur notre nordicité, puis l'hiver. Alors, ça va être tout à l'heure. Parlant d'hiver aussi, juste pour vous rappeler que cette semaine, c'était la Chandeleur, le 2 février. C'était lundi, le 2 février. La Chandeleur, c'est une fête qu'on devrait fêter. Nous, on fête le jour de la marmotte, que je trouve que ça n'a pas beaucoup de signification. Tandis que la Chandeleur, c'est vraiment une fête qui est liée à la lumière. Si vous remarquez, le soleil est beaucoup plus fort. C'est, en fin de compte, la Chandeleur, ça souligne la fin de l'hiver astronomique. Alors, on voit que les journées rallongent, les soleils est beaucoup plus fort. C'est le temps aussi c'est la belle partie de l'hiver où on peut pratiquer là, le ski de fond, les différents sports, la raquette, aller à l'extérieur. Il fait moins froid, le soleil est plus fort, les journées sont plus longues. Alors, moi, je souligne à chaque année la Chandeleur. Les Français soulignent la Chandeleur en mangeant des crêpes. Alors, la crêpe, ça symbolise le soleil. Alors, il n'est pas trop tard pour ceux qui veulent fêter la Chandeleur, le retour du soleil, de se faire des crêpes. Alors, j'ai retenu quelques articles dans Le Devoir. Dans le devoir de mardi, les micro-organismes des glaces accélèrent le réchauffement climatique. Souvent en dormance, ces microbes se réactivent avec la fonte, ont démontré des chercheurs de l'Université McGill. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les glaces des zones polaires hébergent des communautés de micro-organismes qui, à mesure que ces glaces fondent, s'activent et libèrent des gaz à effet de serre susceptibles d'accélérer le réchauffement climatique, dans une étude publiée dans Nature Reviews Microbiology. Des chercheurs de l'Université McGill démontrent que ces micro-organismes constituent ainsi un facteur qui serait important de considérer dans les modélisations du climat. C'est que on parle beaucoup des changements climatiques, on prévoit le réchauffement par des modèles qu'on développe, mais on a toujours des surprises. On a des choses qu'on n'avait pas prévues. Et ça en est une, c'est que quand les glaces fondent, il y a des micro-organismes qui vivent à l'intérieur des glaces et ceux-ci devraient avoir un impact important sur le changement climatique. Donc, on a des surprises encore de ce côté-là. On dit tous ces changements induits par le dégel des glaces auront des répercussions majeures sur le cycle mondial du carbone, affirme Scott Sugen, co-auteur de l'étude et doctorant au laboratoire de microbiologie polaire de McGill. Un autre texte que j'ai retenu, c'était dans le Devoir de lundi, justement, défendre les caribous contre les plans de Trump. On va en parler probablement avec Jean Desi tantôt du mode de vie des Premières Nations qui vivent dans le Nord. Et ça, c'est en Alaska. Les membres de la nation Gwich'in du Yukon et de l'Alaska s'unissent pour bloquer un projet de forage pétrolier dans la réserve faunique nationale de l'Arctique. Ils veulent poursuivre, en fait, le gouvernement américain. Les caribous ont toujours été présents. Je ne me souviens pas, enfant, d'un moment où il n'y en avait pas de caribous, raconte Mme Frost, aujourd'hui âgée de 63 ans et chef de la Première Nation. La poursuite révisée, approuvée par le Cour fédéral du district en Alaska le 23 janvier, conteste une décision prise en 2025 par le département américain d'Intérieur de rétablir un ancien programme de concession et de restaurer 7 concessions pétrolières et gazières détenues par l'Agence en développement de l'État de l'Alaska. Ces concessions couvrent plus de 145 000 hectares et ont été initialement introduites en 2021. Selon les chiffres publiés le 7 janvier par le département de la pêche et de la chasse de l'Alaska, le troupeau est passé de 218 000 individus en 2017 à 143 000 en 2025. Puis ce qu'on dit, en fin de compte, c'est que pour ces gens-là qui vivent dans l'Arctique, c'est plus que les animaux, les caribous, c'est plus que juste des bêtes qui vivent pour la chasse. Ils partagent le territoire avec eux, ils font partie de leur vie. Et ils disent, nous nous opposons au gouvernement, nous essayons simplement de défendre nos droits, de discuter des directives politiques qui pourraient compromettre notre mode de vie. On a aussi à apprendre à comprendre comment les Premières Nations pensent. Ils ont un lien avec le territoire qui est différent de nous. Alors ça, c'est un texte que je vous recommande si vous intéressez à la situation du caribou en Alaska, dans le nord du Canada. C'est la même chose ici aussi. Nos troupeaux de caribous sont menacés. Il y a aussi dans le Devoir aujourd'hui, je vais terminer avec ça, puis après ça, on va avoir notre petite capsule. Dans le Devoir de lundi, un courrier du lecteur au Devoir. C'est des jeunes qui ont écrit pour manifester leur anxiété. C'est un texte jeunesse. On dit « Le bord de la falaise arrive vite quand le vent nous y pousse. La santé mentale dans les écoles est préoccupante. Qu'attendez-vous, les adultes, pour réagir? » En 2023, l'Institut de la statistique du Québec. Selon l'Institut de la statistique du Québec, environ 20 % des jeunes de 12 à 17 ans devaient composer avec un trouble de l'anxiété. Les chiffres sont aussi alarmants en matière de dépression chez les jeunes, d'anxiété, de performance, d'idées suicidaires. Au Québec, la santé mentale des jeunes se porte mal. Présentement, au Québec, il y a beaucoup trop de jeunes qui ne vont pas bien. Demain, ce sera encore, et après-demain, si on n'y prend pas garde, il n'y aura plus personne pour en témoigner. Il faut que ça change maintenant. En tant qu'étudiant, étudiante, nous traversons le cercle vicieux des évaluations. Nous passons d'une pression scolaire épouvantable à l'anxiété de performance, à la dépression et au suicide. Le bord de la falaise arrive bien vite lorsque le vent nous y pousse. Vous tuez peu à peu la génération de demain. N'entendez-vous donc pas un son d'alarme quand vous regardez vos statistiques? À quoi servent les études si elles ne sont jamais prises en considération? Alors, c'est un cri du cœur des jeunes. C'était un texte qui était publié lundi dans le Devoir. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? Je vais passer rapidement sur une revue que j'ai qui est en kiosque présentement, c'est la revue Éléphant, la revue de culture générale. C'est un hors-série sur l'environnement. On va y revenir. C'est franchement un beau numéro. Pour ceux qui s'intéressent, ils veulent se mettre à jour au niveau de l'écologie, de l'environnement. C'est une très belle revue. Alors, c'est en kiosque présentement, l'éléphant. Mieux habiter la Terre, réflexion et avancer. Alors, on va aller avec M. Vigneault, qui va nous lire sa capsule, son texte qu'il a préparé pour nous.
Savoir écouter pour faire aimer. Savoir écouter, c'est savoir aussi se montrer très attentionné envers l'humanité de ceux et celles que la vie a ébranlés. Savoir écouter, c'est comprendre avec empathie et sans préjugés, en tentant de régler les tracas quotidiens que l'on doit affronter. Savoir écouter, c'est être bienveillant dans toute l'adversité où l'on est confronté, en soi-même ou face au reste du monde entier. Savoir écouter, c'est anticiper la plupart des difficultés et en atténuer la portée en toute tendresse et amitié, pour savoir apprécier et faire aimer les joies de la simplicité, les faire savourer dans chaque bouchée d'une vie à croquer à grands coups de mordée dans la pomme du bonheur que l'on doit goûter, en faire profiter ceux et celles qui n'ont pu en bénéficier et un sourire aux lèvres leur faire accrocher pour les faire ultimement se sentir aimés.
Alors, merci, M. Vigneault. Alors, on prend une petite pause musicale, puis au retour, on va parler d'hiver et de nordicité avec notre ami Jean Désy.
Je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer, et je penserai à vous en plantant mes orteils dans le sable doux. Je vous laisse, mon pays ce n'est pas un pays, c'est l'hiver chanté par les charrues. Je vous laisse, mon scraper de la pelle de bois pour vous rendre à la rue. Je vous laisse, la petite glace dans l'escalier tournant qui vous fera tomber sur. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je me pousse en paix avec les canards. Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer, et je penserai à vous en priant le soleil dans l'eau à genoux. Je vous laisse les enfants qui s'assomment en speechant des balles de neige en glace en pleine fin. Je vous laisse les enfants qui ont la langue collée sur les tracks et qui pleurent parce que le train s'en vient. Je vous laisse les enfants mangés par la souffleuse à 4 heures dans un fort trop sucré. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je me pousse en paix avec les canards. Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer. Et je penserai à vous assis dans la soupe bleue jusqu'au cou. Je vous laisse le but du Canadien compté par Jean Béliveau sans aide. Je vous laisse les pieds gelés dans la slotch, un transfert entre les dents. Je vous laisse mes chaloupes dans le portique, mes mitaines et ma gratte en plastique. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je me pousse en paix avec les canards. Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer.
Alors, comme je vous disais, j'ai notre invité, Jean Désy, avec qui on va parler de l'hiver. J'ai aussi quelques lectures, quelques lignes que je veux faire du livre de Monique Durand, qui nous parle, entre autres, de la lumière en hiver. Elle dit, par exemple, elle parle des aurores boréales. Elle dit, deux fois, Deux vraies fois, j'ai vu ces vastes ondoiements célestes vous donner le tournis lorsque vous retenez votre souffle parce qu'une partie du ciel se déménage dans l'autre sous vos yeux. Les couleurs, les formes, oui, peut-être d'abord la sensation que le tapis de la terre vous glisse sous les pieds et que la poussière d'étoiles en vous s'envole, retrouverez ses semblables. Une fois, sur la route 138, en roulant vers l'est, entre Port-Cartier et Sept-Îles, c'était le cœur de février, faillit prendre le fossé, aurore boréale verte. Une autre fois, en Gaspésie, une nuit de Noël, aurore boréale rose, comme les petits anges de la crèche, ses voiles colorées dans le ciel nocturne entrent dans l'imagerie romantique, exprimant la sensation sublime d'Ipäivi Maria Pilaya, une historienne finlandaise qui participait au colloque de Reykjavik. C'est que je ne le savais pas, mais on a des gens qui font de l'ornithologie, qui observent les oiseaux, mais on a du tourisme d'aurore boréale, des gens qui voyagent pour voir des aurores boréales. Alors, le Nord nous donne des choses surprenantes. Monique Durand nous parle aussi de l'heure bleue du Nord, que je ne connaissais pas, qui est un moment spécial dans la journée où c'est au coucher du soleil, juste avant le coucher du soleil, où le ciel devient une sorte de bleu. Puis dans le Nord, il semblerait que les gens souvent vont sortir dehors pour partager ensemble l'heure bleue du Nord. Alors, on voit ça un peu négativement. J'en parlais tantôt. Moi, je suis content du retour du soleil. Mais il y a une beauté aussi dans la nuit polaire. Alors, Jean, d'abord, bienvenue. Merci d'être avec nous. Puis, qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi ton point de vue par rapport à la nuit polaire? Comment on fait? Toi, t'es allé dans le Nord, je pense, l'hiver.
Ben, en fait, je suis allé pendant 30 ans. Ça fait seulement depuis la COVID que je suis allé dans le Grand Nord québécois. Je suis allé aussi au Nunavut, mais surtout dans le Grand Nord québécois. Le Grand Nord québécois, le Nunavik, est pas très, très élevé au niveau de la latitude. Là, c'est moins élevé que l'Alaska. Quand on est à Powinitook, on est vis-à-vis d'Auburn en Écosse, mais... Il y a quand même une relative nuit polaire, mais pas comme quand on est, mettons, au nord de l'Alaska. Là, j'ai vu que ça bien plus. Je ferai un commentaire au sujet de ces aurores boréales qu'on voit beaucoup plus quand on est dans le Grand Nord, comme au Nunavik, j'en ai vu des centaines de fois. Parfois, comme dit Monique si bien, sur la côte nord, même à Québec et en Gaspésie, surtout en hiver, parce que, pourquoi? En tout cas, il y a des périodes où il y a plus d'aurores boréales. Les Inuits appellent ça arsenic. Et ce qui est intéressant dans la... Ben, en tout cas, les Inuits ont passé leur histoire avec les aurores boréales. C'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup, mais ils disent que c'est en sifflant qu'on les appelle. Puis quand on siffle, moi j'aime beaucoup siffler dans la toundra, les Inuits disent « Arrête de siffler, tu vas faire venir les aurores boréales, ils t'agacent. » C'est que c'est évidemment un phénomène naturel extraordinaire, parmi les plus puissants que j'ai pas vécu dans ma vie. Là. Je me souviendrai toute ma vie avec une amie, on marchait à quelques kilomètres de Powinitook, près de la rivière, et il y a eu une aurore boréale qui... Ça apparaît puis ça disparaît, ça peut durer pendant trois quarts d'heure, une heure, mais on avait l'impression d'être écrasé, on était couché sur un rocher, et c'était presque effrayant comment l'aurore était puissante. Pour ce qui est de l'heure bleue, moi, je pense que l'extraordinaire qualité de la lumière dans le Nord, surtout en hiver, est en fonction du grand froid. Plus il fait froid, plus il fait moins 25, moins 30, moins 40, plus l'air est gelé, moins il y a d'humidité, et plus la lumière, particulièrement au coucher du soleil, devient extraordinaire. Troisièmement, pour parler de la nuit polaire, c'est pas drôle, la nuit polaire. Les gens qui vivent au-delà du cercle arctique savent bien que ça existe. Quand on est au Nunavik, au Québec, c'est un pays très, très polaire, nordique, à cause de la toundra, pour des raisons de courant aérien. L'hiver, au solstice d'hiver, là, il y a peut-être 6 heures de lumière. Ce que je dirais, c'est que dans ma vie, l'hiver, très souvent... j'ai eu plus la conscience de la lumière que l'été. Il y a des périodes où il fait tempête, comme là, pendant 3 semaines, il y a neigé en ciboulette ici. Mais l'hiver, comme maintenant, depuis une semaine, il fait soleil, puis la lumière est éclatante, en particulier parce que là, moi, chez moi, ce matin, il faisait moins 26 à Sainte-Brigitte. Bien, à moins 26, il n'y a pas de cristaux. C'est que la lumière est fascinante. Puis en même temps, il y a un contraste majeur entre la lumière qui nous éblouit, qui est extraordinairement belle dans la nature, et le grand froid. Puis évidemment, quand il commence à faire 3 degrés, puis moins 2, puis c'est humide, bien là, la lumière n'est pas la même. J'arrête de... Ça dépend des circonstances. La lumière amazonienne n'a rien à voir avec la lumière polaire. Puis je pense qu'il faut apprécier la lumière. Mais évidemment, en hiver, quand ça fait... Comme là, quand l'hiver dure 6 mois, c'est encore le cas, malgré les réchauffements climatiques. Là, ça a commencé au mois de novembre. Moi, j'ai de la neige depuis le 6 novembre. Mais c'est certain que quand il y a des moments lumineux, c'est plus qu'enthousiasmant. Là. Ça fait du bien. C'est essentiel d'aller dehors, de profiter de la lumière naturelle, même l'hiver, même si ça dure une demi-heure, là, parce que la lumière artificielle est plus fatigante pour les organes et pour la psyché.
Je parlais tantôt de la chandeleur, la fête de la lumière. Je trouve qu'on devrait fêter... Le jour de la marmotte, je trouve que ça veut tellement rien dire. C'est une fête qui est nord-américaine, puis c'est déconnecté un peu. Mais la fête de la chandeleur, ça, c'est connecté à une réalité.
Oui.
Et c'est le retour de la lumière. Puis quand on regarde dehors, juste aujourd'hui, le soleil sur la neige, là, ça fait du bien, là.
Tout à fait.
Ça fait du bien.
Puis les animaux aussi s'en ressentent. Il y a des limites à passer la nuit à moins 26 quand on est un chevreuil. Là. Moi, j'aime beaucoup le monde animal. Ces temps-ci, il y a énormément de neige en forêt. Là. Puis ça finit par être dur pour les cervidés comme les chevreuils. Parce que quand il y a juste un pied de neige, ça va. Actuellement, là, ils sont fatigués. Ils vont survivre. Il y en a qui vont mourir, mais ils ont hâte au mois d'avril. Mais, une fois ça dit, les animaux, les oiseaux, par un temps comme aujourd'hui, deviennent excités. Parce qu'il fait froid, mais la lumière les stimule. Puis il faut le redire, dans notre pays nordique, la luminosité, l'état de la lumière, surtout lorsqu'on est au nord. On est au nord ici, on est dans le petit nord, si on parle dans le terme de loin de Moamelin, là, par rapport au moyen nord de la côte nord, puis au grand nord inuit. Mais la lumière est fondamentale et extrêmement... T'as raison tout à fait. Je pense, moi, que les Autochtoniens, les Inuits, les gens qui vivent sur la Côte-Nord, les Cayens, ont nettement plus conscience de la fête que représente la présence de la lumière, en hiver en particulier. L'été, c'est certain que quand il fait 24 degrés, la lumière importe. Mais puis après ça, il ne faut jamais oublier que sur la Côte-Nord, moi, j'ai passé ma vie, là, mon fils est né à Blanc-Sablon il y a 47 ans. Le problème, quand il se met à faire chaud, puis la mer reste froide jusqu'au mois d'août, il y a du brouillard. Il n'y a pas de lumière pendant des semaines, parfois, sur la Côte-Nord et même dans le Moyen-Nord, à Blanc-Sablon. C'est voici une diminution de luminosité qui n'est pas anodine. Au mois de janvier, à moins 30, il n'y a pas de brouillard.
On a une compensation.
Bien, je veux dire, ce que j'aime quand je parle de mon pays nordique, là, puis j'en parle plus que jamais, là, puis j'ai écrit sans le Nord et sans le monde du bois, j'aurais jamais écrit, c'est les contrastes, l'extraordinaire variété qui peut exister entre une journée puis une autre, entre une période puis une autre. C'est certain qu'il y a 2 jours, là, il a fait 5 degrés. Aïe, aïe, j'étais comme... j'étais à terre, là. Tout le monde était comme... tout le monde souriait parce qu'il faisait beau puis il faisait 5 degrés. Non, il faisait moins 5.
Moins 5, excuse-moi. Oui.
Parce que
c'est, mais quand c'est, même...
j'ai eu l'impression qu'il faisait 5, il faisait moins 5. Oui. Mais entre moins 25 puis moins 35 puis moins 5, c'est extraordinaire. Moi, j'ai déjà vécu, le plus froid, c'est moins 44 dans une tente quand je fais le Tour du Québec en ski. Moins 44, c'est fascinant. Mais 120, dans le Grand Nord, dans la toundra, moins 40, ça se sent pas beaucoup. Faut pas qu'il vente, par exemple, parce que là, l'engelure arrive dans les secondes qui suivent. Mais c'est fascinant parce que plus c'est froid, plus c'est sec, moins tu ressens sur ta peau le froid, bien que, dans une tente, à un moment donné, si t'as pas 2 sacs de couchage à moins 44, ouf, ça peut être mourant.
Puis, tu sais, la lumière, les plus beaux tableaux classiques là, du Québec, comme Clarence Gagnon ou Suzor Côté, eux autres, c'est des peintres classiques. Et c'est magnifique. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils exploraient, ils exploitaient la lumière de l'hiver. Puis, faut les peintres, c'est ce qu'ils font. Ils font voir la lumière. Hein.
C'est tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment important de rappeler.
Si on est attentif, là, je regardais l'autre jour, c'est fait vers 4 heures à peu près de l'après-midi, là. Le fleuve, les glaces sur le fleuve étaient roses. Ça, c'est fabuleux, ça.
C'est intéressant de parler de ça. À Québec, dans un pays nordique, mais c'est pas le Grand Nord, le fleuve qui est gelé au mois de janvier puis au mois de février, mais qui a des glaces flottantes. Il y a plein de ropaques actuellement puis de glaciels parce que ça, à cause des mouvances, il y a beaucoup de courant. Puis aussi, il n'y a plus au mois de décembre. Mais ce fleuve-là, avec ses couleurs, dans l'hiver, dans le rapport à la lumière et au ciel, fascinant. Je dirais que c'est presque aussi fascinant qu'une aurore boréale. Imaginons une immense aurore boréale de type Grand Nord qui, tout à coup, se jette sur quelqu'un qui est en kayak de mer dans le fleuve à 2 heures du matin. Waouh! Tu sais, ça serait l'expérience ultime. Je délire un petit peu en apparence, là, mais voici des expériences. Moi, en tout cas, c'est certain que j'ai eu des expériences mystico-poétiques dans le Grand Nord. Entre autres, je vais parler de quelque chose qui a rapport à la lumière. C'est le phénomène de parélie. Parfois, dans le Grand Nord, pour toutes sortes de raisons, au coucher du soleil, lorsque le soleil, avant qu'il se couche, tu vois trois soleils. Et c'est difficile de savoir lequel est le bon. C'est celui du milieu. Mais ça s'appelle le phénomène de parélie. Et voir trois soleils qui se couchent en même temps, c'est quelque chose d'assez fascinant. Puis, pour revenir à ce que tu dis avec grande justesse, je pense, moi, que le monde des artistes peintres, le monde québécois de la culture, devrait plus que jamais remettre en forme la lumière du Nord québécois, les lumières. Moi, si je peux prendre un exemple, j'ai un ami qui s'appelle Pierre Lucier, qui est un génie, je pense, en peinture, qui fait toutes sortes de toiles d'inspiration religieuse, mais aussi il fait des paysages et il peint énormément en hiver. J'ai déjà filmé pendant 2 heures, sur le bord d'une petite rivière que j'ai dans la rivière Montmorency. Puis c'était le printemps, il y avait de la neige, là, puis aïe aïe. Pierre Lucier, il y avait une exposition récemment là, dans
oui,
une église.
Oui, c'est Saint-Dominique. Je ne sais pas si c'est encore là.
Ben, en fait, il y avait 8 grands tableaux. Oui. Puis il y a un paysage d'hiver. En tout cas, les paysages hivernaux de Pierre Lucier, qui vit encore, là, mais c'est des chefs-d'œuvre, à mon point de vue. J'aime ça en parler parce que, ouf! Mais en même temps, on n'est pas en peinture contemporaine classique. C'est pas la peinture abstraite, là.
Non. C'était un classique, lui.
C'est un classique, mais en ce sens qu'il est très mu par notre hivernité, par la forêt, par les animaux et par les humains qui aiment à tâter du froid, de la glace. Extraordinaire.
Oui, ça, ça, moi, j'aime beaucoup les peintres classiques. Et ça manque un peu les impressionnistes, eux autres qui s'intéressaient à la lumière. Puis aujourd'hui, ben l'art est. On aime beaucoup avoir de l'art moderne, là, mais souvent.
En tout cas, vive la lumière.
On perd un peu, là. Oui, oui.
Oui, c'est certain que tableau noir sur fond noir avec cercle noir, caricature, là, on est loin de la lumière.
Oui, oui. Ben c'est parce que, comme par exemple, Bordua, qui c'était. Passionné de la lumière, mais sa recherche était tellement poussée que fallait lire un livre de 400 pages pour comprendre le tableau. Là.
C'est intéressant. C'est drôle, hein? On parle de peinture, on parle de lumière. Tu as parlé des aurores boréales, à Tsanik, en Inuktitut. Moi, le peintre qui m'a impressionné le plus dans ma vie, c'est Van Gogh. Oui. Et Van Gogh, ses toiles, puis moi, je suis daltonien, moi. Je suis capable de regarder des Van Gogh. En particulier à cause des tourbillons de lumière qui existent dans plusieurs de ses toiles. Son jeu avec les couleurs et les tourbillons, moi, toute ma vie, m'ont rappelé ce que j'ai vécu dans ma psyché, dans le Grand Nord, à certains moments d'extase. Mais les moments d'extase, c'est quand je me promenais avec des amis en skidoo. Puis en général, avec les aurores boréales qui arrivent l'hiver, mais parfois l'été aussi. Puis d'autres phénomènes aussi, comme le phénomène de parélie, ça, je sais pas si les gens ont entendu parler. Voici un genre de miracle, ça devrait être peint.
Oui. Écoute, on va prendre une petite pause musicale, puis au retour, on poursuit notre réflexion sur l'hiver. J'aimerais ça qu'on discute sur comment passer sainement à travers l'hiver, comment faire pour aimer l'hiver.
Take me to the water. to the wall. Take me to that water. Take me to the water to be baptized.
C'était Nina Simone, Take Me to the Water. C'est dans le cadre du mois des Noirs ce que je fais passer. C'est Take Me to the Water, c'était les Noirs qui voulaient se sauver. Là, des... Et probablement, je vais essayer en tout cas d'avoir une émission là-dessus dans le mois de février. Puis février, c'est le mois des Noirs. Là. Alors, voilà.
Et je peux-tu faire un petit commentaire sur cette musique-là?
Oui.
Que je connaissais pas beaucoup, mais ça ressemble à un Negro Spiritual.
Oui.
Mais... sérieusement, pour avoir vécu 30 ans dans ma vie, plusieurs mois par année avec les Inuits, tu mettrais une gang d'Inuits que j'aime profondément dans une église ou dans une cafétéria ou dans une école. Une gang, là, des flots à 15 ans, puis des gens de 75 ans. Puis tu leur mettrais cette musique-là, là, puis les Inuits triperaient. On est dans l'esprit Inuit, même s'ils ne créent pas de Negro Spiritual. Là, les jeunes Inuits, ils font du folk, puis là, ils jouent la guitare, puis il y a des chants de gorge plus... Mais c'est un compliment, là. C'est comme si ce genre de chant, de musique, fait partie de la psyché de la Inuit. Mais là, je vais vite, parce que je veux pas être prétentieux, je suis pas Inuit, mais j'ai assez passé de temps avec eux autres, ils seraient contents.
Mais c'est une complainte, hein?
Ouais.
Les Noirs ont connu la souffrance, ils ont beaucoup souffert. La souffrance fait partie de la vie. Puis je pense que les peuples Inuits aussi, pour eux autres, la souffrance fait partie de la vie.
Oui, jusqu'à récemment, là, on sent que la vie Inuit, jusqu'en 1960, ça s'appelle « Tu survis ou tu meurs ». Puis tout le monde, les gens qui viennent en voyage, là, ils me demandent tout le temps, est-ce qu'il faut se nourrir de plantes sauvages? Oh, ben c'est quand tu vis dans une drôle, à part le lichen, là, je caricature un peu. T'sais, on n'est pas en Amazonie où il peut y avoir des milliers de plantes. C'est que voici un peuple qui a survécu à une situation presque impossible. Ah, il était 1000 Inuits en 1940, là, dans tout le Nunavik. Là. La population a augmenté. Mais voici des survivants. Et il y a toute une espèce de sélection génétique qui fait que aïe aïe, ça... En tout cas, moi, dans ma vie, ce peuple-là m'a impressionné. Je les ai aimés profondément. Depuis quelques décennies, la situation sociale est difficile. Oui. J'arrête là. Je pense que le web, l'exagération autour des médias sociaux crée la difficulté. Mais voici un peuple extraordinairement original. C'est pas des Amérindiens, là. c'est des d'ascendance asiate. Mais les Inuits, c'est intéressant de répéter, puis là, j'ai l'impression de radoter, qu'il y a des Inuits au Québec, au Nunavik, puis c'est un pays Inuit, 30% du territoire, puis il y a des Québécois qui vivent à Koudjouak, mais voici un cadeau, c'est comme si chez nous, dans le territoire, ça coûte cher d'aller dans l'avion, par exemple. Oui. Il y avait comme un contact avec un groupe qui connaît le Grand Nord et le froid, et l'hiver, comme personne, puis est-ce qu'un Inuit aime mieux le mois de janvier quand il fait moins 45, ou le mois de juillet quand... il fait 20, mais que tout d'un coup, là, tu vas pas dans ton drap. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de mouches noires. Il y a des difficultés avec les insectes dans certaines parties du monde, mais là, actuellement, même maintenant, là, dans la toundra, ça s'appelle « Protège-toi parce que tu vas... » Il y a de la mouche noire, ça se peut pas. Quand tu pars faire une excursion, je me souviens, moi, avec ma fille, là, en mois de juillet, les Inuits disent « T'es-tu fou? » Nous autres, on reste dans la maison. Tu sais, je ne caricature pas, là, mais en tout cas, voici une situation. Mais donc, l'hiver fait partie intégrante de l'esprit inuit, mais aussi des Inuits, puis des Cris, puis des Caïens, puis des Abitibiens. Là, je veux dire, plus que quand on est au sud du fleuve. Voici, on a l'impression qu'il y a plusieurs mondes au Québec, mais que le monde nordique, la grande nordicité, doit pas être oublié.
Mais d'ailleurs, tu es voir le très beau film, c'est La Marche vers le pays réel. Au pays réel, c'est vraiment beau.
Samuel Lalande, Marcon, chef-d'œuvre.
Vraiment beau.
Chef-d'œuvre.
C'est dommage, ça n'a pas resté en salle longtemps.
Ah, il a fait un essai remarquable qui a été épuisé en deux mois chez XYZ. Puis je l'ai connu, moi, Samuel, remarquable explorateur. Là. Puis ce film-là, je fais mon têtu, là, mais il est parti de la frontière américaine pour monter jusqu'à Cap Balstorm avec un ami. 3000 km en bicycle et en ski de fond. Puis en même temps, il t'a des images nordiques faites par sa blonde cinéaste extraordinaire. Voici un vrai chef-d'œuvre de notre nordicité. Puis c'est deux Québécois, deux Canadiens français qui croisent des Cris puis des Inuits. Puis il fait partie des Inuits. C'est extraordinaire l'harmonie qui règne. Mais les images de Grand Nord qu'il y a là-dedans,
c'est vraiment beau. Ben, c'est impressionnant. Ouais. Je me dis comment qu'ils ont fait. Il ne fallait pas être peureux. Là.
Ben, mettons que c'est un jeune homme de 40 ans. Là, ils ont du chien. Il a dû lui traverser tout le Québec à partir de la source de la rivière La Grande. Puis il a descendu en canot avec un ami jusqu'à Koudjouak.
OK.
Ouais, il a fait ça. Là. C'est un explorateur. Puis au lieu d'explorer, je ne sais pas moi, le Mont Everest, ben, l'Amazonie, tu sais, je lève mon chapeau, il a envie d'explorer le Québec. Puis il y a beaucoup. Où je veux en venir, c'est que. C'est un Canadien français qui est Québécois. Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection et il admire le monde Inuit. Il va chez les Inuits, mais il n'y a pas un Inuit qui dit autour de là, t'es chez nous. Là. Ils sont tous énervés de voir deux gars en ce qu'ils font. Ils pensent qu'ils dérangent. Là. Non, voici un film qui me représente, à mon sens, l'amalgame nécessaire entre moi qui est né au Saguenay, qui reste à Québec, puis qui va dans le Grand Nord. Puis les nordistes inuits qui aussi vivent. En tout cas, tu me suis.
Oui.
Il faut absolument croire à cette espèce d'harmonie culturelle qui existe entre les différents groupes.
Oui, c'était beau la rencontre, justement. Parce qu'il traverse le Québec du nord au sud.
Ah, oui.
Et puis se rend jusque le point le plus.
Cap Walsenholm.
Plus au nord du Québec.
C'est à peu près à 50 km au nord d'Ivo-Yvic.
En ski de fond, il faut le faire. Puis sur la baie du Tisson, sur les glaces, écoute, c'était impressionnant.
Et les images aussi sont. Comment réussir de pareilles images? Puis en même temps, c'est intéressant de t'écouter parce que puis l'émission. Faut pas oublier que voici un élément important de notre pays, de notre culture. Et
c'est ça, là.
Gouvernement Hamelin, qui est mon maître à penser, disait si les Québécois oublient leur nordicité, il y a un problème grave qui se passe dans leur culture comme dans leur avenir. Et je veux pas être sévère, là, mais je suis pas certain que le Québécois moyen met assez d'emphase sur la nordicité. C'est un mot inventé par Louis Edmond, ça, la nordicité.
Oui.
Actuellement, là, à Québec, on est dans une situation nordiciste. Ça, c'est un adjectif créé par Louis Edmond aussi, nordiciste.
Oui.
Puis j'aime beaucoup les mots de Louis Edmond. Puis c'est quand même fascinant que le mot nordicité soit traduit en 50 langues.
C'est ton grand-oncle.
C'est le cousin à mon père.
OK.
Ça a été mon mentor.
Tu l'as connu, connu.
Ça a été mon mentor quand j'étais adolescent.
Oui.
Puis quand j'ai voulu laisser la médecine après quelques années, puis je voulais étudier en littérature, il était doyen à Trois-Rivières, puis il m'a dit hey, Jean, fais-donc les deux. Puis en même temps, j'ai lu. Son chef-d'œuvre, c'est toute sa vie, mais le dictionnaire des mots du Nord. Il a fait un dictionnaire. Il a créé des centaines de mots, comme le mot glacial, qui est fascinant au point de vue poétique, est une création de Louis Edmond. Ça, c'est un morceau de glace à la dérive. C'est pas un pack, là, c'est un glacial. Puis c'est pas un iceberg, c'est un glacial. Mais G-L-A-C-I-E-L, aïe aïe. Puis il y a toutes
sortes. Un beau mot.
Il a créé des beautés, là.
Oui.
C'est comme, puis il a utilisé des mots scandinaves comme Tjorback. Pour nommer les trous. Quand tu fais du ski de fond sur le fleuve, là, l'hiver, moi, je traverse des fois de l'île d'Orléans jusqu'à la chute de Montmorency, là. Il y a des trous à cause des courants, des remous de courant. Ça s'appelle un Tjorback. Mais ça, c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est des slavismes. Aïe, aïe.
Lui, il voulait nous dire d'aimer l'hiver, d'apprécier le Nord.
L'hiver est une chose.
C'est deux choses.
La nordicité est une chose aussi, puis en général, c'est associé. Là, évidemment, il y a moins d'hiver quand tu es en Amazonie, là, mais hier, j'écoutais une nouvelle, là, il a fait zéro à Cuba.
Ouais.
Il y a un moment d'hivernitude à Cuba.
Oui.
Hey, ça n'a pas dû être drôle quand il fait zéro. Là,
non.
J'arrête là. Voici des changements. Mais il faut faire la distinction entre l'hiver et cette espèce d'état de nordicité qui fait que même en été, quand on va sur la Côte-Nord en été, au mois de juillet, en bateau, sur la mer, Wharf-Saint-Pierre, l'eau est à 3 degrés puis à 5 degrés. Tu te baignes pas facilement dans la mer, à moins d'être fait fort. Voici un lieu nordiciste, nordique, même en été. C'est fou.
Puis c'est ça. D'ailleurs, tu as une belle intervention dans le film. Là, c'est le chemin vers le pays réel.
Ça s'appelle Marche au pays réel.
Marche au pays réel.
Samuel Lalande-Marcon.
Marche au pays réel.
C'est sa blonde qui est la cinéaste. Puis il y a un ami à moi qui prenait le son, là, Thibaut Quinchon.
Puis tu as une belle intervention là, à un moment donné. Il y a une petite capsule là, où parles de.
Je suis fier d'avoir été là-dedans, mais j'ai l'impression qu'il avait besoin d'un ancêtre québécois.
C'était bon. C'était bon parce que c'est que. Ben, tu sais, t'es sensibilisé au Nord, t'as M. Hamelin comme mentor, t'es comme une de la bonne personne pour parler de ça.
T'es fin, mais en même temps, Samuel Lalande a lu Louis-Edmond Hamelin.
Oui.
Samuel Lalande est totalement mu par la pensée de Louis-Edmond Hamelin. Moi, je pense que, puis les géographes que je connais, il n'y a pas beaucoup de géographes qui trouvent que Louis-Edmond était... Voici une autre personnalité du 20e siècle à jamais oublier.
Oui.
La valeur du frère Marie-Victorin, là, mais dans l'univers nordique. Oui. Puis Louis-Edmond, il a passé des années, des mois, plusieurs expéditions en Russie, là, dans le monde de la... C'est fou, dans le monde nordique. Là, il s'est fait arrêter par le KGB à un moment donné, là, je veux dire...
C'était une célébrité dans le Nord. Les gens l'aimaient, il était connu.
Il était beaucoup aimé. Sa simplicité et son humilité font en sorte que je ne suis pas certain qu'à ce moment-ci, où qu'il se trouve, il aimerait ça dire que c'est une célébrité. Mais la parole de Louis-Edmond, ce qu'il laisse autour de l'hiver et de la nordicité est fondamentale. Pas à cause de moi, parce que c'était mon mentor, à cause de notre culture, puis où on s'en va. Si on n'apprécie pas le pays où on est, ben là, il y a un problème. La langue française est majeure, mais j'oserais dire que par-delà la langue française, moi, j'ai des amis inoux qui parlent inoux. Moi, je parle pas beaucoup inoux, mais je connais beaucoup de mots inuititut, là. Mais il y a des langues, puis j'ai rien contre la planète parle anglais, mais la nordicité québécoise est particulière. Puis ça n'a rien à voir avec la nordicité de l'Alberta. Puis je suis pas en train de faire des distinctions pas fines, là. Voici des nordicités différentes.
Mais c'est ça que tu parles dans le film, qu'on connaît pas vraiment notre pays. Le Québec est immense, puis on connaît juste une petite partie.
Oui, puis en même temps, c'est pas facile. Puis en même
c'est
temps,
pas facile d'y aller là-bas.
Je veux dire, j'ai une étudiante hier qui me disait qu'elle allait en stage à Chibougamau. J'ai dit, qu'est-ce que t'en penses, Jean? Ben, je dis, c'est génial. Est-ce que tu savais qu'il y avait plus que 100 Africains qui ont déménagé à Chibougamau? Ils travaillent là depuis quelques années.
C'est
là.
Vrai.
Ben oui, il y a une communauté africaine francophone là, qui tripe à Chibougamau. Hey!
C'est une petite ville.
Une petite ville avec des Canadiens français. Mais l'hôpital de Chibougamau, là, ils soignent qui? Ben, des cris. Des cris de Mistissini, là, ils sont 6000. Ou de Chibougamau. C'est fascinant.
Oui. On prend juste une petite pause musicale. Là, on approche de la fin de l'émission, fait qu'on sait juste court se reposer le cerveau. Puis là, je veux qu'on parle du... Comment tu vois ça bien passer l'hiver?
OK.
No.
malheureusement, on est obligé de couper ça parce que si on veut parler de l'hiver, c'était Nathalie Choquette qui, c'est une pièce de Verdi, va à peine serrer. Ça veut dire va marcher. Puis Jean, on parlait pendant que ça. Puis il disait ça, c'est le genre de musique que tu pourrais entendre dans l'Arctique quand t'es en ski.
Je fais un compliment là, à l'animateur ou à la personne qui choisit la musique. Là, en expédition de motoneige, quand ça fait deux jours que tu es parti avec deux guides Inuit, puis là, tu arrives, rien est brisé, il fait juste moins 10, puis là, tu as le village à tes pieds, puis tu arrêtes. Ça fait partie de la coutume Inuit, tu te fais un thé. Tu as l'impression que dans l'immense silence du grand nord de la toundra, c'est cette musique-là qui joue. Tu l'entends. Tu l'imagines.
Musique céleste.
Musique céleste. J'ai l'air d'un mystico délirant, là, mais voici une musique céleste. Puis même l'Inuit, peut-être qu'en... En tout cas, on sent que... j'arrête là. En expédition, dans la grande nature, où il n'y a même pas d'arbres, quand tu t'es pas pété à la fiole, puis t'es pas mort, puis que tu vois le village pas loin, ben là, il y a comme un état musical cosmique qui vient t'envahir, puis j'ai l'impression que là, un type de musique comme ça, c'est...
Verdi, t'es pas loin.
Verdi est pas loin. J'aime ça parler de la musique, là, mais Verdi est pas loin.
Puis, il nous reste à peu près une minute, là. Qu'est-ce que tu nous recommandes pour bien passer l'hiver?
En fait, je me sens recommandé. Je pense, moi, que le problème majeur dans notre pays, c'est de pas être équipé. C'est que si t'arrives ici, puis tu... T'arrives, je sais pas trop où, là, tu es du Sénégal avant de la France, ben t'arrives, puis que tout d'un coup, tu es au mois de janvier, puis t'as pas de bottes de qualité, c'est certain que tu vas souffrir. La première chose, faut que tu sois équipé. Puis tu peux aller au compteur Emmaüs, il y a du stock, là, mais équipe-toi. Si tu t'habilles pas en hiver, tu vas geler. Si tu gèles, tu n'apprécies pas rien. Puis aussi, chacune des journées varie. Il y a des journées où il pleut, même au mois de janvier. En tout cas, ça s'appelle, dans notre pays, sois équipé. Comme, est-ce que je passe... Je mets des caleçons là, moi, 6 mois par année. J'arrête là.
Mais c'est drôle que tu dises ça, parce que je sais pas si tu savais, mais M. Hamelin, c'est exactement ce qu'il disait.
Ben, c'est mon mentor. Mais tu sais, je mets-tu des caleçons là quand je vais à Cuba, sur le bord de la plage? Non, mais... Donc, l'équipement est majeur. Mais pour apprécier l'hiver, j'évite, là... Tu peux pas rester seulement dans ton appartement, en sécurité, à attendre qu'ils te livrent la nourriture à la porte, puis écouter Netflix 65 heures d'affilée, parce que là, tu vas manquer d'air. Deux, la seule façon d'apprécier l'hiver, c'est d'y participer. Comment? T'es pas obligé de faire du ski de fond pendant 8 heures, t'es pas obligé de partir en expédition en motoneige jusqu'à Chibougamau, mais va dehors. Va dehors 20 minutes, va dehors une demi-heure. Si t'as des enfants, là, semaine de valeur, un petit gars de 6 ans, là, après le souper, c'est quoi que tu fais avec? Tu le mets dans le banc de neige. Tu y vas avec. Mais tu sais, il faut que tu ailles dehors. Si tu ne vas pas dehors, si tu n'habites pas l'hiver, puis après ça, ben, tu as le droit de geler un peu des mains, puis tu es vraiment content que l'Hydro-Québec produise de l'électricité. Je veux dire, on sent que si on n'accepte pas de souffrir relativement, si tu n'habites pas un moment qui est plus compliqué que quand il fait 22 degrés pendant quelques semaines dans notre pays, ça va pas. C'est que... Puis après ça, ben, il y a la lecture, il y a la culture, il y a l'esprit de l'hiver qui compte, mais l'expérience physique et corporelle est probablement aussi majeure que l'expérience psychique.
Deux conseils, donc sortir, puis bien s'habiller. Puis dans les lectures, ben si vous voulez lire quelque chose de beau sur le Nord, l'hiver, Madame Durand, Monique Durand, son livre Nord, NORDS, c'est magnifique.